Bonjour à tous. C'est une joie d'être parmi vous ce matin et permettez-moi, on est encore au mois de janvier, de vous souhaiter une année bénie. Comme j'aime à le dire, on ne sait jamais ce qu'une année nous réserve, mais je souhaite qu'elle vous donne tout ce dont vous avez besoin pour être fidèle, pour rester fidèle, pour servir le Seigneur, fidélité. Des fois, on ne sait pas ce qu'on a besoin, mais le Seigneur donne grâce chaque jour. Pour ce matin, j'aimerais vous lire un psaume. Le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent si je chancelle. Mais j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Le psalmiste lance un cri de détresse. Il semble désemparé, et on est en pleine époque, tout le monde est un peu désemparé, on ne sait plus où on va. Il est persuadé que Dieu détourne de lui ses regards, d'où peut-il sentir une espèce de dépression. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Dans ces 6 versets, il y a la progression équilibrée d'une prière de supplication. Là, il se plaint. Et il a le droit de se plaindre, le Seigneur n'a jamais reproché à quelqu'un de se plaindre. Mais ensuite, il a la requête, la proclamation qu'il reconnaît la souveraineté de Dieu, en lui réaffirmant sa confiance. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? L'impression que le psalmiste est oublié de Dieu. Il se cache. Alors, une immense détresse submerge son cœur. Il a comme l'impression que ses difficultés viennent de ce que Dieu s'est détourné de lui. Oh, c'est une réaction qu'on a souvent. Où étais-tu, Dieu? Que fais-tu? Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Quel contraste avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il y a dans des époques, je pense dans votre vie, dans notre vie, des jours où tout va bien, et puis des jours où on se pose des questions, mais qu'y a-t-il? On ne connaît pas les raisons de sa dépression, mais le psalmiste a perdu le contact avec Dieu. Et il est ainsi à la merci de ses ennemis. Mais qui sont ses ennemis? C'est vrai, on a toujours l'impression de les voir physiques. Alors j'aimerais qu'on lise le psaume 143, où nous voyons, parce que là, le psalmiste est dans... Le souci, c'est ce qu'il a peur, c'est pour son âme. Verset 8 du psaume 143. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la fosse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Là, c'est une souffrance intérieure où le pays se répand devant Dieu. Il sent bien que cela n'est pas seulement physique, mais son âme est attaquée. Cet ennemi est facilement identifiable lorsqu'on parle de l'âme. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, nous dit ceci, « Il y a eu une guerre dans le ciel, et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre. » Pourquoi ce conflit céleste? Pourquoi cette dualité? Il n'y a qu'à revenir avec Job, où la souffrance de Job était... J'allais dire un deal avec Jésus et Dieu et le diable. Et Thierry, touche-le, tu verras. On ne sait pas toujours quel est l'enjeu de nos souffrances, de nos difficultés dans la vie. Les Écritures nous donnent une explication. Dans Ézéchiel, au chapitre 28, verset 14, nous décrit la situation de l'ennemi de nos âmes avant sa révolte. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu as été intègre dans tes voies, juste depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté, nous dit Ésaïe 14, verset 12. Ce qui confirme la sentence d'Apocalypse, hein. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Certaines traductions traduisent Lucifer, fils de l'aurore ou ange de lumière. Hein, comme on nous a dit que le diable se déguise en ange de lumière pour mieux nous séduire. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. De Dieu, je serai semblable au Très-Haut. À cause de son orgueil, Dieu l'a rejeté. Il a donc exercé son esprit malfaisant sur la terre. Puisqu'il n'avait plus de pouvoir dans le ciel, il s'est acharné sur les créatures de Dieu. Esprit de séduction, de mensonge, d'orgueil et de crainte pour s'assujettir les nations. Et cela a commencé avec Adam et Ève. Bien des religions païennes ont pour origine le souci d'apaiser les esprits, de se les rendre favorables, tout dans le plan de Satan et de contrer le plan d'amour de Dieu, et même d'accomplir des miracles et des prophéties, des prodiges mensongers, nous dit le Thessalonicien, l'apôtre Paul, aux Thessaloniciens. Dans Jean 12, verset 31, Jésus l'appelle le prince de ce monde. Bien sûr, il règne sur un monde qui est désarçonné. Sa condamnation va tomber dès que Christ aura expié le mal sur la croix. Bien sûr, son pouvoir reste limité à l'ennemi de nos âmes, au diable, mais pouvoir quand même. Plus tard, au chapitre 14, Jésus dit à ses disciples, juste avant son arrestation, « Je ne parlerai plus guère, car voici, le prince de ce monde vient. » Il avait annoncé à ses disciples la progression, son sacrifice, le don de sa vie. Mais ensuite, comme s'il voulait dire, « Maintenant, c'est l'ennemi de vos âmes, c'est votre ennemi qui va prendre le relais, qui va contrôler la situation parce que je ne serai plus là. » Comme pour leur dire que le temps où il serait trahi approche. Mais sachez que je vais aller à la croix de mon plein gré, car c'est la volonté de mon Père pour moi, et le temps favorable que le diable attendait est arrivé. Vous savez, quand il a été tenté à Jérusalem, il nous a dit que Jésus, Dieu le diable, le laissa pour un moment plus favorable. Et ce moment favorable était donc arrivé à la croix. L'ennemi, le diable, semblait avoir vaincu, a triomphé. Mais le pauvre ne savait pas que c'était la victoire sur la mort, la victoire sur le péché qui était en train de se jouer là. Quelques jours seulement où le diable a déferlé sa haine envers le Fils de Dieu, haine d'une violence extrême, qui dit ceci, il a été dans Ésaïe 5, chapitre 52, verset 14, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tout son visage était défiguré, son aspect différait de celui des fils de l'homme, victime de la brutalité des hommes. Et souvent, lorsqu'on voit, on lit les textes du Nouveau Testament, la crucifixion de Jésus, ça passe vite, hein. Ils le clouèrent. Ils se moquèrent de lui. Mais on s'arrête un peu quand on voit un peu les films qui sortent sur Jésus. On imagine la souffrance que c'était. Là, Ésaïe nous dit qu'il était même défiguré. On n'a pas une idée de la souffrance qu'a été celle du Christ pour nous, pour moi. Et si la résurrection de Christ a mis un terme au pouvoir de Satan, nous vivons quand même dans un monde marqué par le péché et sous l'influence du malin. Emmanuel Menlein, dans son livre « Le combat spirituel » dit ceci, « Le diable s'est servi des religieux pour accomplir son plan de destruction et affaiblir l'Église. » Et cela, on peut le comprendre. Dans Matthieu, chapitre 15, Jésus dira aux Sadducéens et aux... Vous annulez la loi au profit de la tradition. Et Jésus les traite d'hypocrites, tous ces pharisiens, qui connaissent la loi, mais qui ne la laissent de côté au profit de la tradition, toutes ces coutumes humaines qui sont là. Même dans l'islam, nous voyons ça. Beaucoup de pratiques, de traditions ne sont pas dans l'islam. Les hommes aiment à se chercher de former des barrières humaines. Malnaïm dit ceci, il cite l'exemple de la mort d'Étienne, une mort violente. Un homme dont l'esprit se sert puissamment pour toucher des lits. Si vous voyez le ministère qu'il avait, quelques versets. Il guérit des malades, il chasse des démons, il communique l'évangile. Qui n'a pas rêvé d'avoir un tel témoignage, d'être aussi efficace dans notre témoignage chaque jour? Quel gâchis! Quelques jours ou quelques semaines, je n'ai pas regardé. Étienne est reparti vers Dieu. Ministère abrégé. Et pourtant, Dieu a permis. Mais quel gâchis, on pourrait dire humainement. Un homme efficace. Et on en connaît, je suis sûr, dans notre entourage, des personnes que Dieu a enlevées prématurément. Des personnes qui aimaient le Seigneur, qui le servaient. Toutes ces souffrances, ces morts, les conflits, la jalousie, la méchanceté, ce sont des forces de frappe de l'ennemi. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. La mort n'était pas dans le plan de Dieu. C'est pourquoi elle fait si mal. Le psalmiste interroge Dieu, car il veut comprendre ses difficultés. Les difficultés dans l'Église. Pourtant, l'Église a été persécutée. Dans le Nouveau Testament de cette Église, ni plainte, ni murmure, mais au contraire, un changement de stratégie pour continuer le témoignage. Quand il y a eu la persécution d'Étienne, et bien tous les disciples ont essaimé, sont partagés pour peut-être fuir la persécution, mais sont restés actifs et ils ont témoignage. Nous avons tel le fameux témoignage de Philippe, et ensuite sa rencontre avec l'eunuque éthiopien. Le diable aurait bien voulu que les disciples se cachent par crainte de persécution, comme ils l'ont fait à la mort de Jésus. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Les disciples se sont dispersés et ce fut le début de l'expansion de l'évangélisation. Cela m'a fait penser au verset que Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 10. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. En gros, ne craignez pas le diable, qui n'a de pouvoir que sur votre corps, mais craignez plutôt Dieu, car lui seul a le pouvoir de décider où vous allez passer l'éternité. Tout à l'heure, une sœur a prié pour les difficultés présentes n'ont rien à voir avec l'éternité qui nous attend. Et c'est vrai, cela. On a l'impression, on parle notre vie sur 80 ans, et on a l'impression de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as promis? Tu as promis que rien ne m'arriverait. Tu serais à mes côtés. Mais il a dit, si tu traverses la fournaise, tu traces par le feu, je serai avec toi. Il a promis sa présence. Et on a... Oui, on focalise notre délivrance de Dieu, notre obéissance à Dieu pour qu'il ne nous arrive rien. On pense qu'il a promis de nous assurer sa protection. Mais qu'est-ce que 80 ans de... J'allais pas dire de galère, mais de témoignage difficile par rapport à l'éternité. Pourquoi cette mise en garde? Lire le verset qui précède, dans verset 27, « Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que j'ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » C'est donc une invitation au témoignage, quel qu'il soit. Et il peut l'être au travers de la maladie, nous avons vu, mais c'est des personnes malades qui ont été des témoins fidèles, des personnes alitées. Les disciples ne doivent pas craindre l'opposition, parfois meurtrière des hommes, car le plus qu'ils puissent faire, c'est tuer le corps. Mais pour le chrétien, c'est entrer dans la présence de Dieu. En ce moment, nous sommes perturbés par une épidémie, une pandémie qui ne cesse de s'étendre, même si elle s'affaiblit, disons. On est confronté avec une... J'allais dire, je ne sais pas si dans l'église, c'est entré chez vous, mais le conflit, vacciné ou pas vacciné, que faire? On écoute, on les dit, mais c'est tellement de choses, ouais, ils nous incultent dans le vaccin, il y a tellement de choses. Mais qu'est-ce? Confiance à Dieu. Quelqu'un avait dit, je crois que vous l'avez lu dans le Seul, il comparait toutes les aiguilles des infirmières qui nous injectaient leur virus, c'était comme les sauterelles avec un aiguillon de fer de l'Apocalypse. Imaginez ce qu'on va quand on essaie de trop chercher. Faisons confiance à Dieu. S'il permet cette épidémie, il permet bien sûr, on connaît des personnes dans les difficultés, dans la dépression, qui vivent mal cela. Mais Seigneur, que veux-tu? Un peu comme le psalmiste, jusque là, quand, qu'est-ce que tu veux nous apprendre par cela? Témoigner, parler de Jésus autour de nous attire l'opposition, l'opposition de l'ennemi de nos âmes. L'homme n'en est que l'instrument. Le psalmiste l'avait compris et il demande à Dieu de l'aider à y voir clair. Il est troublé. Un autre psalmiste, je pense que vous connaissez, c'est connu, le Asaph, le chantre du psalmiste, au chapitre 73, il a aussi cette question. Il s'interpelle aussi. Il s'étonne que le méchant, il prospère, il n'y arrive rien. Alors lui qui est fidèle, qui est près de Dieu, il arrive tant d'ennuis, tant de difficultés. Alors il dit, me suis-je trompé? Et alors il dit au verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, je veux faire comme eux, je trahirais la race de mes enfants, de tes enfants. Et quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai vu ce qui était réservé aux méchants. Alors pour nous, si vous êtes parfois dans les difficultés, peut-être dans les épreuves, dans l'incompréhension, sachez, il y aura un terme, que Dieu veille. Satan n'est pas responsable de toutes nos difficultés, car nous avons hérité d'une nature contaminée par le péché et avec des tempéraments qu'il nous faut maîtriser. On a notre caractère, notre tempérament, et cela, Seigneur, doit être éprouvé aussi par le feu. Le diable a profité de nos travers pour nous faire douter et prouver que notre conversion n'a rien résolu du tout, que vous êtes le même. Mais ce qui est formidable, c'est que Jésus a prévu le coup. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 31, il dit à Pierre, « Méfie-toi, Satan a demandé le droit de vous passer par le crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Et cela lui a été accordé. Mais moi j'ai prié pour toi afin que tu ne perdes pas la foi. Et quand tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères. » Pour moi, c'est une partie de l'explication. Pourquoi Jésus n'empêche pas la tribulation, n'empêche pas que Pierre soit troublé par Satan? Non, il lui promet seulement qui va prier pour lui pour que sa foi ne défaille pas. Fabuleux, fabuleux ça. Quelle promesse! Tu auras des souffrances, des difficultés, on les connaît, hein, il en a eu. Mais je prie pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Alors le Seigneur prie pour chacun d'entre nous ce matin, pour que toutes les questions qu'on peut se poser, les incompréhensions, ne fassent pas douter de la bonté de Dieu. Jésus n'a pas empêché les attaques du diable. Lui, le Tout-Puissant, savait que Pierre et ses amis devaient passer par cette école de formation pour les qualifier en vue de leur ministère futur. Frères et sœurs, Dieu est souverain. Lui qui créa l'univers si complexe et en même temps si parfait, alors même que nous n'avons pas encore tout compris son fonctionnement, on ose lui demander des comptes lorsque nous sommes contrariés, surtout lorsque ses promesses contredisent ce que nous vivons. Dieu seul nous voit et nous accompagne. Une seule attitude à avoir devant ces questionnements, comme le psalmiste, nous incliner devant la souveraineté de Dieu. J'ai lu un article où l'auteur disait, si nos questions deviennent des plaintes contre Dieu, nous sommes en danger. Notre foi est en danger. La deuxième chose que je retiens de ce verset, c'est que Dieu ne tient pas rigueur à celui qui flanche, pour une raison ou pour une autre. Il dira à Pierre, quand tu seras revenu de ton égarement, il n'est pas question de conversion, tu seras en mesure d'encourager, d'affermir, justement, ceux qui perdent pied. N'ai jamais remarqué que vous êtes... On est plus efficace quand on a vécu une épreuve et qu'on rencontre quelqu'un qui se passe pendant cette épreuve. On est plus efficace, même sans mots, on comprend mieux la personne qui parle en difficulté et on peut même mieux l'aider. Pourquoi Jésus ne prie que pour la foi des disciples? Car c'est l'élément moteur qui nous relie à Dieu et qui nous fera remporter les victoires. Et ça, l'ennemi de nos âmes, il n'aime pas du tout. Dans 1 Jean, l'apôtre nous dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Ce n'est pas avec nos capacités, notre corps, notre cœur, mais c'est la foi, la certitude de nous accrocher avec les promesses de Dieu. C'est la foi en un Dieu vivant et vrai qui nous fera remporter les victoires. Ce qui est visé dans nos difficultés, c'est notre foi. Paul a envoyé Timothée à l'église de Thessalonique pour vérifier la solidité de leur foi. Paul avait fui en catastrophe cette communauté parce qu'il avait provoqué une révolte. Sa présence, son témoignage avait provoqué une émeute. Il a dû s'enfuir. S'ensuivit des persécutions dans l'église. Et le souci de Paul quand il envoie Timothée, ce n'est pas de savoir s'il y a eu des blessés, mais s'ils ont tenu bon. Si votre foi est restée intacte par rapport à Dieu. Paul craignait que le tentateur ne leur fasse regretter leur engagement. Alors il envoie de Timothée pour les affermir et les exhorter à demeurer fermes dans la foi. Que personne, dira-t-il aux Thessaloniciens, ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Dur, ça, quand tu le sais, hein, c'est ça. Et l'apôtre Paul n'a pas été épargné dans les difficultés. On pourrait dire que c'était l'élu de Dieu, il a été engagé pour cela. Mais vraiment, les épreuves ont permis à l'ennemi d'être anéanti, de reculer, et permis le témoignage de beaucoup. Jésus dira à ses disciples, « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Par le don de ma vie, sur la croix, tout a été neutralisé. » Si le psalmiste a osé ouvrir son cœur à Dieu, c'est parce qu'il a une totale confiance en lui. Après un moment d'abattement, de peur, de crainte, de reproche, ses doutes changent en assurance. Voyons les derniers versets. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il a cette certitude que finalement c'est Dieu qui tient les rênes de ce monde. De déprimé qu'il était, le voilà qui chante. Sa foi s'accroche à un amour inébranlable de Dieu. Et c'est ce que je désire pour vous ce matin. Restez accrochés à ses promesses. Que ce qu'il a promis, il l'affirme. Que le corps peut être touché, mais le but, c'est que nous restions accrochés à ses promesses. Que notre foi reste ferme, attachée aux promesses de Dieu. Je ne vous abandonnerai pas, même si le corps peut être touché. Que le Seigneur vous donne cette certitude qui vous accompagne chaque jour. Peut-être dans les moments difficiles que vous traversez, les moments d'inquiétude, les questionnements, tournez les regards vers le Seigneur. Et il vous donnera la paix assurée pour vos âmes. Alors, puisque le psalmiste nous propose, termine sa plainte en chant de louange, je vous propose de faire comme lui. Et après la prière, nous allons chanter un cantique que j'aime beaucoup. Je vous invite à prier. Seigneur, merci du privilège que nous avons de te connaître. Merci de nous rappeler ce matin que tu es à nos côtés, dans les difficultés. Merci de savoir que tu pries pour nous. Tu pries pour chacun d'entre nous. Et je te remets tous mes bien-aimés de cette église, de leur famille, qui passent peut-être par l'épreuve, ou les difficultés, ou le deuil, ou la maladie, entourés de ta paix et de ta grâce, et qu'ils ressentent vraiment ta présence, qu'ils se sentent entourés, Seigneur. Que leur foi ne défaille pas, mais reste accrochée à tes promesses.